Éric Bataillon.
Bonjour. L'information en ligne et les réseaux sociaux sont en pleine progression à travers le monde. La rive sud de la Méditerranée n'échappe pas à la règle, comme le montre une étude menée par l'Agence française de la coopération média, CFI. Que se passe-t-il dans une année de vie ? Un artiste libanais, Mazen Kerbage, nous propose 365 dessins, un par jour, manière de voir la grande et les petites histoires de la vie. À suivre également la revue de presse, regard croisé sur Israël et le monde arabe, avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire.
Orion Hebdo sur RFI.
Révélation d'affaires de corruption, sujet de société brûlant, reportage donnant la parole aux citoyens. L'actualité couverte par la presse en ligne arabe n'a jamais été aussi lue et débattue qu'aujourd'hui. La montée en puissance spectaculaire de cette information en ligne renouvelle les modes d'accès à l'actualité et à son analyse. De spectateurs passifs de médias très institutionnels, les citoyens sont finalement devenus, en quelques années, des producteurs et des diffuseurs d'informations. David Yvet, bonjour.
Bonjour.
Directeur Méditerranée Asie de CFI, l'agence française de coopération média. Vous publiez un panorama détaillé des médias en ligne de 8 pays du monde arabe, on peut les citer, Algérie, Égypte, Jordanie, Liban, Maroc, Palestine, Syrie et Tunisie. Mon introduction était d'ailleurs une citation partielle de votre étude. L'information en ligne, David Yvet, et les réseaux sociaux sont-ils en train de changer la donne dans ces pays ?
C'est exactement l'analyse que nous avons fait à CFI depuis plusieurs années. Nous travaillons donc dans la plupart de ces pays depuis très longtemps, mais nous avons constaté particulièrement depuis les révolutions arabes l'ampleur qu'ont pris tous ces médias en ligne et notamment grâce aux réseaux sociaux. C'est pourquoi nous avons décidé de développer nos projets et nos actions en faveur de ces médias qui se développent, vous le verrez si vous lisez notre étude, de manière assez disparate entre les pays, mais qui se développent néanmoins partout et qui ont vraiment révolutionné le paysage médiatique, peut-être encore plus que les chaînes de télévision satellitaires.
Alors avec nous également en studio, Laurent Giacobino, porteur de l'étude, bonjour.
Bonjour Eric Bataillon.
Alors voyons plus en détail avec vous le contenu de cette étude. Qu'avez-vous analysé précisément ?
Alors on a essayé de dégager des grandes lignes et en fait on s'est rendu compte qu'il y avait certains aspects où il y avait un très fort contraste, qui était notamment le taux de pénétration d'Internet et les aspects de liberté d'information, liberté d'expression. On se rend compte que pour des raisons historiques, politiques, technologiques, économiques, il y a vraiment des pays qui sont détachés en s'illustrant par exemple, par une très forte pénétration d'Internet. On peut penser au Liban où 71% de la population a accès à Internet contre l'Algérie qui a seulement 17% de taux de pénétration. Bien sûr, les situations politiques et donc l'impact sur la liberté des médias sont extrêmement contrastés. Le Maroc a rien à voir avec la Syrie. Donc on a des environnements où les médias en ligne peuvent se développer qui sont extrêmement contrastés. On a aussi vu des tendances de fond qui sont très bien partagées. Et David Yvet en a parlé, c'est notamment l'aspect réseaux sociaux, parce qu'il y a vraiment, depuis le printemps arabe, depuis les révolutions arabes, sans dire que c'est forcément la cause ou la conséquence, mais en tout cas, il y a une simultanéité qui est très marquante, une explosion de la pénétration des réseaux sociaux. Et l'autre tendance de fond, c'est vraiment le rôle prépondérant qui est en train de prendre l'accès mobile et le pas que c'est en train de prendre sur l'accès, disons, traditionnel, sur des ordinateurs fixes, et la manière que ça change vraiment de partager et de consommer de l'information pour les citoyens de ces pays.
Mais avez-vous l'impression, à l'issue de cette étude, que les réseaux sociaux et l'information en ligne sont devenus des médias plus crédibles que les médias traditionnels ou institutionnels ?
Alors là aussi, c'est difficile de donner une réponse franche et unanime. En termes de crédibilité et de qualité des médias qu'on trouve sur Internet et à travers les médias sociaux et les médias qui sont développés au sein des médias sociaux, parce qu'il y a en fait une écologie des médias qui s'est développée au sein de Facebook, qui existe de manière quasiment indépendante de toute autre forme de présence en médias traditionnels ou même sur Internet. Donc il y a une très forte diversité. On voit que il y a des acteurs qui sont extrêmement prometteurs, qui bénéficient en fait de l'espace d'ouverture qu'il y a sur Internet, qu'il n'y a pas dans les médias, comme vous l'avez dit, traditionnels, qui sont très institutionnels, qui est vraiment un héritage de la fin du XXe siècle.
Par exemple,
pour parler des meilleurs, des plus prometteurs, on peut parler de Madame Asser en Égypte, qui est finalement l'un des derniers bastions d'information en ligne dans le paysage médiatique dans son ensemble en Égypte, et qui donc n'évolue que sur Internet. On pourrait parler, par exemple, en Tunisie, d'un site avec lequel CFI travaille beaucoup, qui s'appelle Inkifada, qui est encore en train de grossir, qui est relativement petit, mais qui est très prometteur, qui fait beaucoup d'enquêtes, de slow journalism, qui travaille sur les données, qui fait beaucoup de visualisation de données. Donc il y a des projets qui sont très prometteurs, très très excitants. Et puis il y a aussi une abondance de sites à côté qui sont de très faible qualité, qui font beaucoup de republications d'informations, qui ne font pas de vérification d'informations, qui font aussi beaucoup de sensationnalisme, du journalisme jaune comme ils appellent, qui font aussi même des chantages à la publication. Il y a des affaires encore récentes de chantage à la publication. Donc on est vraiment dans du journalisme low cost et même pire que ça dans certains cas.
Qui consomme cette information en ligne?
Alors ça, c'est l'une des questions qui est la plus brûlante et sur laquelle c'est assez difficile de répondre. On voit que c'est beaucoup de gens, ne serait-ce que par les taux de pénétration d'Internet qui sont en train d'exploser, qui ont explosé dans ces dernières années dans la plupart des pays, à quelques exceptions près. Mais même les exceptions comme l'Algérie, on sent qu'il va y avoir une conversation assez rapide, notamment par l'introduction de la 3G. Donc beaucoup de gens ont accès à Internet, et on sait que sur Internet, de par les données qu'on a, notamment par Alexa, on se rend compte que la popularité des médias en ligne est extrêmement forte. Et même si on fait des comparatifs avec des pays occidentaux, on voit que on est dans des ordres de grandeur différents. Par exemple, si vous regardez selon Alexa, donc il y a un indicateur parmi d'autres, dans les 50 sites les plus visités en France, il n'y a que 3 sites d'information, c'est Le Figaro, Le Monde et L'Équipe. Au Liban, dans les 50 sites les plus visités du pays, il y a 29 sites d'information, et qui sont tous des sites libanais. Donc il y a vraiment un appel d'air, il y a vraiment une envie d'aller chercher de l'information sur Internet, sans doute parce que le reste du paysage médiatique n'est pas satisfaisant.
David Yvet, c'est important que ce type d'information se développe et touche notamment la jeunesse.
Alors effectivement, ça concerne la jeunesse, mais pas seulement, comme vient de le dire Laurent. Et c'est important du fait que les médias traditionnels dans le monde arabe ont souvent une approche assez conservatrice, partisane au sens politique, mais ça peut être au sens religieux, voire économique, et que même si l'Internet reste encadré, disons, c'est un espace de liberté qui n'a jamais existé auparavant. Et ce que n'a pas dit Laurent, un phénomène qui se développe dans certains pays, c'est le phénomène des sites d'information locaux. L'information locale, l'information de proximité était assez peu développée dans le paysage médiatique arabe, et grâce à Internet, notamment dans un pays comme le Maroc, vous voyez apparaître des tas de sites liés aux différentes régions, aux différentes villes du Maroc, mais on voit aussi des initiatives apparaître en Tunisie, même en Égypte, où certaines, disons, minorités ou certaines communautés qui sont assez peu présentes dans les médias traditionnels, commencent à prendre des initiatives médiatiques grâce au web pour pouvoir s'exprimer, et parfois dans des langues qui ne sont pas celles des grands médias. C'est un phénomène que Laurent a également étudié dans son étude, avec l'utilisation des langues dialectales, du Darija notamment, mais aussi l'apparition de cette langue un peu de l'internet ou des SMS, l'arabisie, qui se développe beaucoup et qui permet, je pense, de rapprocher les citoyens des médias, parce que c'est leur langue de leur quotidien et pas une langue un peu de l'élite, ou c'est une langue qui est plus proche d'eux.
Merci David Yvet. Votre agence CFI est très engagée dans le développement donc de l'offre d'information en ligne, d'où cette étude, ce panorama. Je rappelle que vous êtes directeur Méditerranée-Asie de l'Agence française de coopération média, CFI. Et merci aussi à Laurent Giacobino, auteur de cette étude sur l'information en ligne dans 8 pays du Moyen-Orient et du Maghreb. On peut retrouver cette enquête sur le site www.cfi.fr/fr/actualité/panorama des médias en ligne.
Merci Éric Bataillon.
dessins par jour, c'est le défi que s'était lancé Mazen Kerbage en 2012. Défi accentué par la nécessité de faire ses dessins sur un agenda. Résultat, 365 dessins et même un peu plus qui ont été exposés lors du Salon du Livre de Beyrouth et que les éditions Tamiras ont décidé de publier dans un seul ouvrage. Bonjour Mazen Kerbage.
Bonjour.
Vous êtes auteur de bande dessinée mais aussi peintre et musicien, on l'a vu dans votre ouvrage. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de ce défi ?
Le fait que je sois musicien et que je voyage beaucoup, ça fait des années que je travaille surtout dans des avions, dans des bus, dans des cafés, sur des petits carnets. Donc parfois j'en publie quelques dessins, parfois je les redessine. Là je me suis dit tiens, je vais faire un livre, au lieu de perdre mon temps sur des carnets, je vais faire vraiment un livre. Et depuis le début de cette aventure, entre guillemets, je savais que j'allais le publier. Donc ça faussait un peu le jeu et puis en même temps ça mettait plus de pression parce qu'il fallait vraiment faire un bon dessin chaque jour, ce que je n'ai pas réussi à faire bien sûr.
Qu'est-ce que racontent ces dessins? Ça précisément.
C'est ma vie pendant un an, bien sûr, mais dans le sens le plus large. Donc l'année 2012, c'était la crise en Syrie qui commençait, qu'on appelait pas encore une guerre civile, qu'on appelait encore des révoltes. Alors je l'appelle bien une guerre civile. Déjà, je pressentais le coup parce que avoir vécu au Liban toute sa vie, on voit venir ce genre de truc. Il y a mes tournées des bars quasi légendaires à Beyrouth et dans le monde. Il y a mes tournées dans le monde pour jouer de la musique. Il y a ma vie de famille. Il y a mes doutes quant à mon travail et quant au projet lui-même. Et puis, toutes sortes d'autres trucs qui relèvent de la fiction, quelque part. Parfois, je fais des dessins qui ne se rapportent pas directement à ma vie, mais l'idée, c'était surtout de montrer l'évolution. C'est-à-dire, quand il y a un bon dessin, de montrer comment, avant ce bon dessin, il y avait 10 mauvais dessins, parfois, ou 10 dessins ratés, entre guillemets.
Qu'est-ce qui vous a le plus intéressé dans ce défi? C'est le dessin lui-même? C'est ce qu'il raconte? C'est l'évolution? C'est quoi, précisément?
Parfois, quand je travaille sur des carnets, comme je disais, parfois, j'arrive à faire 5, 6, voire plus dessins par jour. Ça dépend. Puis je reste parfois 5 jours sans dessiner. Là, c'était vraiment cette régularité de se réveiller chaque matin et de se dire, je dois faire mon dessin aujourd'hui. Donc, les 2 premiers mois, c'était vraiment, j'étais encore dans le truc. Puis après, pendant plusieurs mois, j'en avais un peu marre. C'est-à-dire, chaque jour, je me disais, zut, je dois faire encore le dessin aujourd'hui. Puis, vers la fin, je me disais, zut, ça va finir. Bon, bien sûr, il y a des moments où c'est vraiment déprimant. J'ai pas envie de dessiner. Je suis mal, quoi, comme n'importe qui, et où j'ai pas d'idées. D'autres endroits où j'attends que le jour finisse pour faire le dessin de demain parce que j'ai une idée, j'ai plein d'idées, j'ai un trop plein d'idées et donc parfois je sais ce que je vais faire pendant 5 jours. Donc ça crée en fin de compte une narration. C'est pas vraiment un carnet ou un journal intime, ça devient vraiment une histoire, l'histoire de cette année. Donc j'appelle ça un an journal d'une année comme les autres parce que effectivement les années passent et se ressemblent.
Est-ce que c'est aussi l'histoire du Liban en 2012?
Sûrement, c'est un autoportrait et un portrait du Liban, bien sûr, parce que ayant vécu toute ma vie là-bas, je porte les, j'aime pas le mot, mais je trouve pas d'autre, je porte les stigmates de, je suis né en 75 au Liban, donc ça fait de moi ce que je suis aujourd'hui, donc un être un peu pessimiste, désabusé, cynique, à l'humour un peu noir, voire trop noir, et le Liban passe à travers tout ça, à travers tous mes questionnements, à travers mes joies et mes peines, bien sûr.
Merci Mazen Kerbage, auteur d'un an, journal d'une année comme les autres, publié aux éditions Tamiras, disponible au Liban, en France, en Suisse, en Belgique et aussi en ligne.
Merci à vous.
Pour nous écrire, orient.hebdo@rfi.fr.
Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem où nous attendent pour lire la presse de la semaine Alexandre Bouchanti, bonjour.
Bonjour.
Et Michel Paul de retour de vacances, bonjour Michel.
Bonjour.
Alexandre, la visite en Russie du vice-prince héritier d'Arabie Saoudite fait la une de la plupart de vos journaux.
Oui, et des journaux qui indiquent que la visite du prince Mohammed bin Salman bin Abdelaziz a été couronnée par des accords saoudo-russes dans les domaines de l'investissement, du pétrole et du gaz, et surtout de la coopération militaire et de l'usage pacifique de l'énergie nucléaire. Et c'est évidemment ce dernier accord qui retient l'attention de la plupart des journaux. Certains éditorialistes y voient un message de mise en garde qui est adressé par Riyad à Washington au sujet de l'accord sur le nucléaire iranien qui n'est pas apprécié par l'Arabie Saoudite, une Arabie qui perçoit l'Iran comme étant une menace régionale. L'accord sur la coopération militaire saoudo-russe est lui aussi perçu comme important, d'autant plus que le prince Ben Abdelaziz est aussi le ministre saoudien de la Défense.
À la une également, Alexandre, la prise de la ville syrienne de Tal Abyad à la frontière turque par les milices kurdes.
Oui, la conquête de cette ville qui était occupée par le groupe État islamique et le contrôle par les Kurdes de centaines de kilomètres de frontière avec la Turquie est regardée avec une certaine méfiance par plusieurs journaux arabes. Alors certains éditorialistes se demandent si les Kurdes ne sont pas en train de constituer le noyau d'un État qui unirait le Kurdistan syrien au Kurdistan irakien. Des journaux indiquent à cet égard que les Kurdes ont empêché le retour des habitants arabes de Tal Abyad et certains vont jusqu'à parler d'épuration ethnique dans le nord de la Syrie. Le monde arabe, tout comme la Turquie, a toujours été hostile aux aspirations indépendantistes kurdes et avait fermé les yeux quand Saddam Hussein avait gazé la ville kurde de Halabja en 1988.
Michel Paul, ce qui fait la une de la presse israélienne, c'est cet incendie à l'église de la Multiplication et aucune arrestation pour le moment.
Absolument, Retz fait remarquer qu'en l'espace de 4 ans, ce sont pas moins de 17 mosquées et églises qui ont été incendiées, mais surtout Eric, que dans aucun des cas, un coupable n'a été trouvé. Tous les journaux le soulignent, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a donné des instructions aux responsables de la sécurité intérieure, le Shin Bet, tout faire pour retrouver les responsables des incendies de l'église de la Multiplication à Tapra, non loin du lac de Tibériade, un des lieux saints du christianisme. Pour Israël Hayom, le journal proche du Likoud, le parti du Premier ministre, il s'agit d'une tentative d'enflammer une guerre des religions. Yedioth Ahronot parle du feu de la haine, particulièrement visé par les services de police, un groupe d'extrémistes qui signe ses attaques sous le nom de Tag Mechir, le prix à payer. Mais encore une fois, souligne-t-on, jamais personne n'a été arrêté pour ces actes de vandalisme.
Et puis Michel, la situation est tendue à la frontière avec la Syrie. Les Druzes, côté israélien, sont inquiets.
Aider les Druzes, c'est le titre de l'article de Haaretz, de l'éditorial de Haaretz. La situation en Syrie, ces 4 dernières années, présente un certain nombre de défis pour Israël. Et l'un d'entre eux est le sort de la communauté Druze, dont une partie vit depuis 1967 du côté israélien de la ligne du cessez-le-feu. Israël, estime le journal libéral, ne peut ignorer la tragédie humaine qui se déroule sous ses yeux de l'autre côté de la frontière. Il faut aider les Druzes par une aide humanitaire, sanitaire, mais aussi en accueillant de manière provisoire, du moins, souligne Haaretz, des réfugiés.
Alexandre, de nombreux articles de presse sur le début du Ramadan.
Oui, un Ramadan qui sera extrêmement dur. Les journaux du Golfe indiquent que la chaleur dépassera certains jours les 50 degrés à l'ombre et jeûner et surtout ne rien boire du lever au coucher du soleil sera un vrai défi. Mais la chaleur n'est pas le seul problème. Il y a aussi celui de la longueur du jour, donc de la période de jeûne qui atteindra son point culminant demain dimanche 21 juin. Se pose aussi la question du jeûne des musulmans qui se trouvent dans les pays nordiques et où le jour peut durer jusqu'à 22 heures. Et puis, il y a le jeûne dans les territoires contrôlés par l'État islamique, où, selon certains journaux, les femmes sont simplement interdites de sortie du lever au coucher du soleil.
Dans la presse israélienne, Michel, cette nouvelle ministre israélienne qui fait beaucoup parler d'elle.
On a parlé il y a un instant de guerre de religion. Eh bien, c'est une guerre de culture qu'il s'agit maintenant. La nouvelle ministre Miri Regev, générale de réserve et aussi ancienne responsable de la censure militaire, n'a décidément pas la langue dans sa poche. Elle a réussi à se mettre à dos les artistes en utilisant un vocabulaire plus proche de la garnison que du répertoire classique. Mais les chroniqueurs se partagent sur la question de fond. Le ministère de la Culture doit-il financer des œuvres telles que l'apologie d'un acte de terrorisme monté par un théâtre arabe de Haïfa ou alors un film présentant l'assassin du premier ministre Rabin sous un jour sympathique. Le débat se tient dans les colonnes des journaux et les avis diffèrent, mais pas uniquement selon les divisions politiques.
Également, Michel, des statistiques qui surprennent.
C'est Haaretz qui publie ces statistiques et Eric, surprise en effet, on a noté une baisse de l'immigration en provenance de France et au contraire une hausse du nombre d'immigrants de Russie et d'Ukraine. Pour la France, moins 19% pour les 5 premiers mois de 2015 par rapport à la même époque l'année dernière. Les responsables du ministère de l'intégration des immigrants prévoyaient une forte augmentation après l'attentat de l'hypercacher.
Et pour conclure, Michel, quelle est votre photo du jour ?
Et cette fois, c'est un placard publicitaire publié dans les journaux par le ministère israélien du Tourisme sous le titre « Les nuits du Ramadan ». Il appelle les Israéliens de toute confession visité les villages arabes et fêté ensemble l'iftar, le repas qui marque la fin du jeûne quotidien pendant le mois du Ramadan.
Merci Michel, merci Alexandre. À la réalisation, François Porcheron. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de la radio www.rfi.fr, rubrique émission, ainsi que sur notre page Facebook. Bonne semaine, à samedi prochain. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.